C'est le 2 octobre aujourd'hui. Bon lundi, Hélène Denis qui vous accompagne à l'émission Les voies de service quotidien. Belle journée d'automne, Jean-Sébastien.
Bon début de semaine, Hélène.
Avez-vous profité de la fin de semaine? Êtes-vous allé aux pommes, vous?
Même pas. Même pas, les pommes sont venues à moi.
Ah ben, au moins, elles sont venues à vous. Elles sont bonnes de ce temps-ci.
Tout à fait. Ben, elles sont bonnes toute l'année, mais oui, c'est une période très agréable.
Des pommes
pour
de
la
saison,
bouche.
Là, c'est difficile à battre.
Absolument.
Comme les poires, d'ailleurs. J'en ai mangé en fin de semaine des délicieuses.
Bon, ben, je vais aller me chercher des fruits tout de suite.
Je vais vous en apporter une demain, une poire.
Ah, c'est gentil.
Alors, je vous écoute.
2 octobre, journée internationale de la non-violence, qui pourrait en même temps avoir lieu plusieurs autres jours pendant l'année, mais journée internationale de la non-violence, et je vous pose la question, Hélène, mais pourquoi? Pourquoi en ce 2 octobre, journée internationale de la non-violence?
Je sens que vous allez me le dire bientôt.
Anniversaire de naissance de Mohandas Karamchand Gandhi, le père de l'indépendance de l'Inde, donc en lien avec son anniversaire de naissance le 2 octobre, journée internationale de la non-violence, étant qu'à parler des naissances, l'auteur, compositeur et chanteur américain Don McLean, celui qui chantait American Pie, et également 1951, Don McLean 1945 donc, et 1951, naissance du chanteur et musicien britannique Sting.
Oh!
Et décès en 1996 de l'ancien premier ministre, oui, Robert Bourassa. Événement marquant pour un 2 octobre, tout d'abord en 1535, conduit par les Indiens d'Hochelaga, Jacques Cartier escalade le Mont-Royal, qui donnera son nom à Montréal. 1758, à Halifax, sous l'égide de l'Angleterre, première réunion d'un parlement canadien. 2 octobre 1900, le premier ministre canadien Wilfrid Laurier pose la première pierre d'un projet de pont de Québec. 1950, parution de la première bande dessinée de Peanuts de Charles Schulz, que j'ai toujours eu de la difficulté à prononcer, le père de Charlie Brown et Snoopy.
Oui, oui.
2 octobre 1955, à Ottawa, adoption de la loi de l'assurance chômage. 1968, Jean-Jacques Bertrand devient premier ministre du Québec, succédant à Daniel Johnson, décédé quelques jours auparavant. 1980, le premier ministre Pierre Elliott Trudeau annonce qu'il va faire rapatrier la Constitution. 1990, durant le Reichstag, une fête marque la réunification de l'Allemagne 11 mois après la chute du mur de Berlin. Et toujours 1990, un 2 octobre, un avion chinois détourné par des pirates en percute 2 autres en se posant à Canton. On parle de plus de 120 personnes qui périssent suite à cet accident. 2 octobre 1992, Mikhail Gorbatchev, ayant refusé de témoigner au procès sur la légalité du Parti communiste de l'Union soviétique, se voit interdire par la Cour constitutionnelle de quitter le territoire russe. Et 2009, un autre fait qui avait fait jaser, 2 octobre 2009, le Québécois Guy Laliberté fait son entrée dans la Station spatiale internationale en rejoignant les 6 occupants de la station.
C'était le jour de son départ?
C'est le jour où il a... qu'il a pénétré dans la station. Donc, je n'ai pas l'heure exacte à laquelle il s'est envolé, mais il est arrivé à bon port le 2 octobre 2009.
J'imagine qu'il va fêter ça aujourd'hui. Merci, cher Jean-Sébastien.
Avec grand plaisir.
À la une de la presse d'aujourd'hui, la presse en Catalogne, référendum sur l'indépendance, la fracture. Notre envoyé à Barcelone, Philippe Tessera-Lessard, la journée de référendum d'hier marquée par le chaos et la répression, annonce une période de grande turbulence en Catalogne, débat François Cardinal, les fantômes d'un passé dictatorial, Patrick Lagacé, ceci n'est pas une chronique catalane, et Yves Boisvert, la chronique intitulée « Le silence des nations ». Un pays est-il né sous les matraques de Madrid après une journée chaotique où le gouvernement espagnol a opposé la force à un référendum finalement remporté par le « oui » Les Catalans se préparaient hier soir une déclaration d'indépendance rapide et à la réplique de l'Espagne. Car si la journée, avec ses 844 blessés, est garante des prochaines, les rues de Barcelone et de la région n'en ont pas fini avec les scènes brutales qui inondent les télévisions du monde entier. La Catalogne a gagné le droit de devenir un État, a affirmé dans un discours télévisé hier en soirée le président catalan Carles Puigdemont, ajoutant qu'il transmettrait les résultats du référendum au Parlement régional, siège et symbole de la souveraineté de notre peuple. La loi prévoit que l'indépendance soit proclamée dans les jours suivants, selon le journal La Vanguardia. Quelques heures plus tard, les centaines d'indépendantistes rassemblés sur la place de la Catalogne ont accueilli les résultats avec un immense cri de satisfaction. 90 % des votes exprimés en faveur de l'indépendance, avec 2 millions d'électeurs sur 2,2 millions de bulletins, beaucoup de partisans du non boycottaient le processus pour ne pas le légitimer, comme l'avait demandé Madrid. Au final, la moitié moins d'électeurs que lors des dernières législatives ont voté et au moins 92 bureaux ont été fermés. Le ministère catalan de la Santé a affirmé que plus de 800 personnes avaient fait appel à ses services en lien avec le référendum. Parmi celles-là, des Catalans au visage ensanglanté, une jambe bleuie par une balle de caoutchouc ou le corps piétiné par les policiers qui sont rapidement devenus les visages de la crise. Le gouvernement espagnol devra répondre de ses actes devant la justice pour ce scandale de proportion internationale, a dit Jordi Turull, porte-parole du gouvernement catalan. Consternation chez les Catalans de Montréal. Les indépendantistes catalans de Montréal se sont réunis hier pour suivre ensemble le référendum. Entre colère et consternation devant les actions de Madrid, l'émotion était à son comble alors que les résultats arrivaient au compte-gouttes. Après l'allocution du président de la Catalogne qui a déclaré que la région a remporté le droit de devenir un État indépendant, le local de la Société Saint-Jean-Baptiste a vibré au son de « Les moissonneurs », l'hymne officiel de la Catalogne. La chronique de Patrick Lagacé, ceci n'est pas une chronique catalane. Allons, je ne vous ferai pas le coup de me transformer en expert du mouvement indépendantiste catalan pour égayer cette chronique. Je ne sais rien du mouvement indépendantiste catalan. Libre à vous de cesser de lire tout de suite cette chronique sur le mouvement indépendantiste catalan. Bref, je n'allais pas chroniquer sur les heurts entre les Catalans et le gouvernement central de Madrid qui a tout fait depuis quelques semaines pour bousiller ce référendum sur l'indépendance. Je ne pourrais même pas vous dire si les Catalans ont raison de vouloir un pays. Je ne connais rien de leur réalité et de leur grief face à Madrid. Je sais que nos souverainistes rêvent d'une Catalogne libre, mais c'est une façon de rêver le Québec en catalan. En fait, je me disais que si je devais absolument chroniquer, que si ma vie dépendait d'une chronique sur la Catalogne, genre si j'étais kidnappé par des extraterrestres et que ma libération reposait sur une chronique catalane, eh bien, dans le cas improbable où cela surviendrait, j'allais dire ceci. La démocratie espagnole ressemble à la démocratie turque, vue d'ici, point de suspension. On s'entend, il n'y a pas vraiment de chronique dans ce point de vue-là, que vous avez lu partout, à moins d'habiter sur Mars. Angle de secours de cette hypothétique chronique, disons que mes ravisseurs avaient vraiment, mais vraiment insisté pour que je leur ponde une analyse catalane. J'aurais pu explorer cette idée. Si on veut galvaniser un mouvement indépendantiste, quoi de mieux que d'envoyer la police pour fesser dans le tas avant et pendant le scrutin? Mais encore là, pas vraiment de quoi faire une chronique qui me vaudra 50 j'aime sur Facebook. Alors je ne vais pas faire de chronique. Je vais plutôt relayer les observations de deux chercheurs qui ont pondu dans The Atlantic le papier le plus lumineux qu'il m'ait été donné de lire sur le mouvement indépendantiste catalan à l'heure des matraques madrilènes. L'article s'intitule « Comment l'Espagne a mal compris le mouvement indépendantiste catalan », gracieuseté de Nafis Hamid et de Clara Pretus, tous deux affiliés à un centre d'études des conflits du nom d'Artis International. Les deux chercheurs ont étudié la psychologie de dizaines de souverainistes catalans dans la foulée du référendum symbolique de 2014, remporté par le oui à 80 % sur un famélique taux de participation de 35 %. C'est pour ça que le résumé que Hamid et Prétus ont préparé pour The Atlantic est si fascinant, parce qu'il entrecroise l'analyse politique et la psyché des indépendantistes catalans, étude longitudinale en prime. Excusez, pardon. Je vous livre en 10 flashs les observations de Hamid et de Prétus. 1. La consultation de 2014 a agi comme une soupape pour les souverainistes catalans. Le sentiment d'urgence s'est assagi, même chez les plus ardents militants. 2. Avant la consultation de 2014, la plupart des souverainistes catalans étaient prêts à être emprisonnés au nom de la création de la Catalogne comme État indépendant. 3. Après la consultation, ces mêmes souverainistes étaient à peine prêts à perdre leur emploi au nom de ce même État indépendant. 4. Le seul fait d'avoir voté dans un référendum symbolique a calmé les ardeurs des souverainistes catalans. Selon cette étude, ils ont commencé à voir la Catalogne comme plus puissante. 5. Point de suspension et le pouvoir central de Madrid comme moins puissant. 6. Je cite les auteurs. Le vote de 2014 a réduit la passion des indépendantistes tout en permettant à leur dignité d'augmenter. 7. Le mouvement indépendantiste catalan de ce début de siècle carbure à deux phénomènes. 1. Le chômage. Les chercheurs ont trouvé une forte corrélation entre le taux de chômage et l'appui à la souveraineté. Et 2. La décision de la Cour constitutionnelle espagnole qui, en 2010, a piétiné le récent statut de l'autonomie de la Catalogne qui consacrait la région comme une société distincte. Alors, il y a un point d'exclamation entre parenthèses. 8. Avant cette décision de la Cour constitutionnelle, l'appui des Catalans à la souveraineté était de 25 %. 2 ans plus tard, il était à 57 %. Traduction, quand Madrid veut mater les Catalans, ils ont des envies de pays. 9. Jusqu'à tout récemment, nombre d'électeurs catalans favorisaient un référendum tout en étant indécis sur la question de la souveraineté. Mais la ligne dure de Madrid a plutôt convaincu certains de ces indécis de voter oui. 10. Les chercheurs Hamid et Prétus sont formels. Les actions du gouvernement révèlent une incompréhension profonde de la psychologie du mouvement indépendantiste. La ligne dure du gouvernement pourrait en fait créer plus d'indépendantistes et attiser leur passion. Traduction du point 10, faire matraquer des petites vieilles catalanes par des robocops envoyés par le pouvoir central risque de cloner le nombre de Catalans qui pensent que finalement, une Catalogne indépendante est une bonne idée. Restons dans les métaphores souverainistes, si vous le permettez. Il ne faut pas avoir la tête à Papineau pour comprendre ça. Chronique de Patrick Lagacé, intitulée « Ceci n'est pas une chronique catalane ». La victoire de Jagmeet Singh brasse les cartes électorales. Durant le seul débat en français de la course à la direction à Montréal à la fin du mois d'août, Jagmeet Singh avait provoqué l'hilarité dans la salle en déclarant sans embâge qu'il obtiendrait l'appui d'une majorité des membres du parti et qu'il succéderait à Thomas Mulcair à la tête du nouveau Parti démocratique, NPD. À son principal adversaire, Charlie Angus, un député respecté du nord de l'Ontario, qui lui demandait s'il comptait être candidat néo-démocrate aux élections fédérales de 2019, s'il mordait la poussière dans cette course ou s'il comptait retourner à Queen's Park comme député provincial du NPD, Jagmeet Singh avait répondu du tac au tac avec respect « Je ne perdrai pas. Avec grand respect, quand je vais gagner, je vais me présenter à l'élection fédérale. » Coiffé d'un turban rose et portant son légendaire complet 3 pièces, Jagmeet Singh a tenu sa toute première promesse hier en remportant dès le premier tour la course à la direction du NPD. Les résultats rendus publics à Toronto sont sans équivoque. M. Singh a obtenu 53,8 % des suffrages, loin devant les 3 autres candidats, les députés Charlie Angus, 19,4 % Nikki Ashton, 17,4 % et Guy Caron, 9,4 %. En remportant la victoire, M. Singh a écrit une page d'histoire sur la scène politique fédérale. Il est devenu le premier candidat issu des communautés ethno-culturelles à être élu à la tête d'une formation politique nationale majeure.
fille fidèle se réveille éblouie au passage envoûtant de chaque mouvement que je laisse en sillage à votre discrétion. J'en sorcelle vos pensées, flâneurs impatients. J'en miele vos esprits, éclaire vos blanches nuits. Regardez-moi encore une fois, regardez tout. Mon miroir émane le reflet de jouvence. Le temps est mon amant, me vénère en silence, me recouvre d'atours, m'enveloppe en cellophane. Je suis votre perdition, votre péché mignon. Votre passion est pour moi la rivière que je bois. Regardez-moi encore une fois, regardez tout, je suis à vous. Ne détournez pas les yeux, oh, contemplez-moi.
C'était la sympathique nouveauté du Quintel, le trio barbecue, ça s'intitulait Mirage.
À la une du Devoir de ce lundi 2 octobre, à coups de matraques et de balles de caoutchouc, la police espagnole a tout fait pour tenter d'empêcher ce scrutin interdit par la justice espagnole. Une quarantaine d'organisations syndicales, politiques et sociales ont lancé dimanche un appel à la grève générale dans la région pour mardi, en réaction à l'intervention de l'État pour empêcher le référendum sur l'autodétermination de la Catalogne, alors qu'on voit une photo d'une femme qui est prise par derrière un policier, donc qui semble vouloir contrôler cette femme-là. Une photo assez troublante. Catalogne, un oui au terme d'un jour noir. Le gouvernement catalan crie victoire à la suite d'un référendum pour l'indépendance marqué par des violences policières. Alors, il y a une correspondance de Christian Rioux à Barcelone et une chronique de François Brousseau. Franco sort de ce corps. Apprendre la vie après les centres jeunesse, un projet pilote vise à outiller les jeunes dans leur transition vers la vie adulte. Société, sexe dans tous leurs états, si l'éducation à la sexualité se délestait des clichés irréalistes. Culture, Brigitte Henkens, pourfendre la solitude des relations humaines. Actualité, une hausse du seuil d'immigration réduirait les pressions budgétaires qui s'exercent sur le réseau de la santé selon le Conference Board. Une attaque terroriste fait 5 blessés à Edmonton. L'entreprise Uber pourrait quitter le Québec et après, point d'interrogation. Et Jagmeet Singh dirigera la destinée du NPD. Le Canada aurait tout à gagner à augmenter le nombre d'immigrants accueillis chaque année, conclut un nouveau rapport du Conference Board. Non seulement cela contribuerait à la croissance économique, mais cet apport de nouveaux citoyens canadiens pourrait réduire les pressions budgétaires qui s'exercent sur le réseau de la santé. Le rapport publié ce lundi analyse ainsi 3 scénarios en matière d'immigration pour les années à venir, soit jusqu'en 2040. Ceux-ci varient entre la cible actuelle du gouvernement fédéral, fixé à 300 000 immigrants par année, et un scénario d'immigration élevé, soit 450 000 personnes. Ce dernier scénario avait d'ailleurs été recommandé l'an dernier par le Conseil consultatif en matière de croissance économique. Dans tous les cas, les immigrants contribuent à une hausse du produit intérieur brut par habitant, à un niveau toutefois légèrement plus élevé dans le cas de la cible canadienne actuelle. Cependant, les scénarios qui miseraient sur une cible pouvant aller jusqu'à 450 000 immigrants par année atténueraient davantage les pressions économiques et budgétaires engendrées par le vieillissement de la population et le faible taux de natalité selon l'analyse du Conference Board. Le successeur de Sam Ahmad sera élu lundi, aujourd'hui. Après une campagne mouvementée et très médiatisée en raison du retrait de 2 candidats, c'est jour de vote ce lundi dans Louis-Hébert. Les électeurs de cette vaste circonscription de la région de Québec choisiront qui succédera à l'ex-député libéral Sam Ahmad. La candidate du Parti libéral, Ihsane El-Guernati, est d'ailleurs l'ex-attachée politique de M. Ahmad. La coalition Avenir Québec est quant à elle représentée par l'ancienne directrice des communications du Bureau du coroner du Québec, Geneviève Guilbeault. Normand Beauregard porte les couleurs du Parti québécois alors que Guillaume Boivin représente Québec solidaire. Plus de 45 000 électeurs de cette circonscription qui a élu, par le passé Jean Lesage et Claude Castonguay notamment, sont appelés aux urnes. Quelques 6800 d'entre eux ont voté par anticipation, soit près de 15 %. La défaite serait dure pour les libéraux qui règnent en roi et maître dans Louis-Hébert depuis 2003. Sam Ahmad avait annoncé sa démission en avril dernier, un an après avoir été écarté du caucus libéral, en raison de ses liens allégués avec l'ex-collecteur de fonds du Parti libéral Marc-Yvan Côté. En 14 ans, il a dirigé 7 ministères. Le VIH, un virus qui touche de plus en plus les cinquantenaires, longtemps associé aux jeunes ou même aux seules personnes homosexuelles, le VIH touche de plus en plus de personnes de 50 ans et plus. Les quinquagénaires comptent même pour 16 % des nouveaux cas diagnostiqués en Europe, selon une étude publiée dans le journal médical The Lancet. La même étude constate que dans cette tranche d'âge, autrefois peu associée aux infections au VIH, les nouveaux cas ont augmenté en moyenne de 2 % par année depuis 2004, alors qu'ils stagnent dans les autres groupes d'âge. L'étude réalisée en révisant les infections diagnostiquées entre 2004 et 2015 chez plus de 54 000 quinquagénaires établit l'incidence du VIH à 2,6 cas pour 100 000 habitants dans cette couche de la population. La croissance a été observée dans 16 pays d'Europe, notamment en Belgique, en Bulgarie, en République tchèque, en Estonie, en Allemagne, en Grèce, en Norvège et au Royaume-Uni. Seul le Portugal rapporte une diminution des cas d'infection au VIH dans cette tranche d'âge. L'augmentation annuelle a même atteint 8 % en Allemagne, 3,9 % en Belgique et 5,4 % en Irlande. Selon The Lancet, la prévalence du VIH chez les plus vieux aurait aussi augmenté aux États-Unis et au Canada. Selon la revue scientifique, cette croissance s'explique en partie par l'augmentation de l'espérance de vie et par le fait que de plus en plus de personnes atteintes se découvrent séropositives après l'âge de 50 ans. Alors que les nouveaux cas d'infection stagnent chez les jeunes, la proportion des personnes âgées croît sans cesse dans le fardeau total que fait peser le VIH sur l'ensemble de la population. Bien qu'il n'y ait techniquement plus de pénurie d'infirmières au Québec, les syndicats qui les représentent remarquent une hausse des heures supplémentaires à des périodes inhabituelles de l'année. Et ils s'interrogent sur ce phénomène alors que la frustration de leurs membres augmente. Des demandes d'accès à l'information faites par la presse canadienne dans certains CI3S du Québec, les CI3S, ce sont les centres intégrés de santé et de services sociaux, confirment effectivement une hausse des heures supplémentaires, notamment l'hiver dernier. C'est inhabituel qu'on ait des pics à ces moments de l'année, a indiqué Daniel Gilbert, deuxième vice-président de la FIQ, la FIQ, Fédération interprofessionnelle de la santé, au cours d'une entrevue avec la presse canadienne. Habituellement, c'est durant les vacances d'été que les heures supplémentaires augmentent, affirme-t-on à la FIQ. L'organisation syndicale qui représente la grande majorité des infirmières et infirmières auxiliaires au Québec. Le ras-le-bol des infirmières est tel qu'à Gatineau, elles avaient fait un sit-in spontané en mars et avril dernier. Et plus de 9 ans après l'enlèvement de la journaliste Amanda Linhout en Somalie, un homme fera face à des accusations lundi au Palais de justice d'Ottawa. Merci d'écouter Canal M de Vues et Voix. C'est Hélène Denis qui vous accompagne en ce 2 octobre 2017 que je vous souhaite agréable. Restez avec nous pour la suite de l'émission.
Yeah!
Retour en 1973 avec Paul McCartney et Wings, cet extrait de l'album Band on the Run, Jet.
À la une du Journal de Montréal, 844 blessés lors du référendum catalan Journée noire. Le oui aurait obtenu 90 %. Joseph Facal en Catalogne, des scènes que je n'oublierai jamais. Richesse, qui forme le 1 % au Québec? Jagmeet Singh, élu chef du NPD, il tend la main aux Québécois. À 4 mois des Olympiques, Pyeongchang inquiète les parents d'athlètes. Un homme connu des policiers pour ses idéologies extrémistes devrait être accusé de terrorisme pour avoir happé et poignardé un policier avant de foncer dans 4 piétons au volant d'un camion samedi soir à Edmonton. Le suspect de 30 ans est d'origine somalienne et il bénéficie du statut de réfugié selon un porte-parole du ministère fédéral de la Sécurité publique. Il avait attiré l'attention des autorités en 2015. Une plainte pour dénoncer sa radicalisation avait alors été déposée contre lui, a indiqué hier le commissaire adjoint de la GRC, Marlon de Grand, en conférence de presse. Selon plusieurs sources, il s'agirait d'Abdullahi Hassan Sharif. La police a toutefois refusé de confirmer son identité. Un drapeau de l'organisation État islamique a été retrouvé dans l'un des véhicules que le suspect a utilisé dans ce qui est considéré comme un acte de terrorisme par les autorités. L'homme a d'abord foncé dans un policier affecté à la circulation à proximité du stade Commonwealth. Vers 20h15, la force de l'impact a propulsé l'agent Mike Chernick plus de 4 mètres dans les airs. Le conducteur est sorti de son véhicule et a commencé à poignarder vicieusement le policier avec un couteau. Une vidéo provenant d'une caméra de surveillance a été dévoilée hier. Elle montre le suspect foncer dans le policier, puis lui asséner plusieurs coups de couteau. L'homme s'est ensuite enfui à pied, laissant sa Chevrolet Malibu blanche sur les lieux de l'agression. Peu avant minuit samedi, des policiers ont intercepté un camion de location U-Haul lors d'un barrage installé au croisement de Wayne Gretzky Drive et de la 112e Avenue. Ils ont alors fait le lien entre le nom sur le permis de conduire et celui du propriétaire de la Chevrolet. Le conducteur du camion a immédiatement pris la fuite, poursuivi par une dizaine de voitures de police. Le suspect a délibérément tenté de heurter des piétons, happant 4 personnes au total, avant que son camion ne se renverse. Le président de la Catalogne a affirmé hier que les habitants de sa région avaient gagné le droit d'avoir un État indépendant de l'Espagne. Carles Puigdemont, 54 ans, à la tête de la Catalogne depuis début 2016, a ainsi porté son défi à l'État espagnol à un nouveau sommet sur ce sujet qui divise presque à part égale les Catalans. La loi de référendum adoptée par les séparatistes pour organiser le scrutin prévoit qu'une fois les résultats proclamés, l'exécutif déclare l'indépendance et lance une phase de négociation. Lance plutôt une phase de négociation. Entouré du reste de l'exécutif régional, M. Puigdemont a déclaré hier soir, avec cette journée d'espoir et de souffrance, « Les citoyens de Catalogne, nous avons gagné le droit d'avoir un État indépendant qui prenne la forme d'une république. » Hier soir, Mariano Rajoy a sans le nommer désigné M. Puigdemont comme un des responsables des événements de la journée, estimant qu'il avait promu la violence, la violation de la loi et la rupture du vivre ensemble. « Ne cherchez pas d'autres coupables, il n'y en a pas », a-t-il ajouté. M. Puigdemont et l'ensemble de l'exécutif catalan sont déjà visés par une enquête pénale pour désobéissance, prévarication et détournement de fonds publics en lien avec l'organisation du référendum. « Et toujours à propos du référendum en Catalogne, nous appelons les partis à cesser tout acte de violence et notamment les autorités là-bas et à réaliser la simple vérité qu'une situation comme ça ne peut qu'avoir une solution politique, a dit Philippe Couillard, premier ministre du Québec. Jean-François Lisée, chef du Parti québécois, la violence de l'État espagnol contre le vote des Catalans est une honte pour l'Europe et tous les démocrates du monde. Et François Legault, nous espérons que les gouvernements de Madrid et de Barcelone pourront s'entendre pour qu'une consultation se tienne dans un contexte permettant une issue claire et ordonnée, dont les résultats pourront être reconnus par tous, M. Legault, du chef, qui est le chef de la coalition Avenir Québec. Denise Bombardier, Joly Trudeau. Ensemble, ils partagent beaucoup de choses. Ils sont beaux, séduisants, jeunes et légers. À leurs yeux, le monde est bon, l'avenir ne peut être que brillant et la mondialisation ne se laissera guère freiner. Mélanie est de toute évidence la ministre chouchoute du cabinet du premier ministre. Il est à parier que le 1er juillet 2018, ils fumeront légalement leur premier joint ensemble. Mélanie Joly est le double féminin de Justin, le gentil mâle. Mais soyons objectifs et lucides, politiquement, elle est moins douée et plus démunie que lui. L'entrevue qu'elle a accordée à Paul Arcand sur sa politique à l'égard de Netflix illustre, hélas, les limites de sa compétence, laquelle inclut son incapacité à s'exprimer en français. En ce sens, elle est le produit de l'échec de l'enseignement de la langue au Québec. Que cela plaise ou non aux égalisateurs et niveleurs sociaux, être ministre dans un gouvernement exige des qualités d'intelligence, d'éthique, mais aussi de correction langagière. Relire des déclarations de la ministre est un exercice pénible et triste. Comprend-elle ce qu'elle affirme? Combien de temps lui donnera-t-on le bénéfice du doute? L'imagineront-on face aux dirigeants arrogants et puissants de Netflix jouant les séducteurs tout en évaluant ses faiblesses politiques? L'imagine-t-on plutôt? Alors, la politique aberrante du gouvernement libéral qui refuse de taxer ce mastodonte culturel qui envahit la planète illustre bien son incurie. Mélanie Joly déclare à Paul Arcand « Comment avoir une taxation? Il n'y a pas un pays au monde qui est arrivé à trouver une réponse parce que ces entreprises ne sont pas dans leur juridiction. » Ce charabia, quasi incompréhensible en français, exprime son ignorance du dossier Netflix puisqu'à travers le monde, la plupart des pays industrialisés taxent les entreprises étrangères. Il n'y a que le Canada qui fait un pareil cadeau au géant américain Netflix. Or, soit la ministre du patrimoine est ignorante, soit elle ment. Et dans son cas, on peut raisonnablement croire qu'elle est ignorante. Deux semaines après avoir reçu un coup de bâton, un jeune hockeyeur ne sait toujours pas s'il pourra retrouver l'usage de son œil droit et veut maintenant sensibiliser les autres joueurs à l'importance de mieux se protéger. Au hockey, tu te sens invincible et tu crois que rien ne peut t'arriver. Les yeux, tu en as besoin. Et je peux maintenant dire que c'est toujours mieux prévenir que guérir, dit Guillaume Pelletier, dont la visière n'a pas été suffisante pour mettre ses yeux à l'abri d'un bête accident. C'est dans une séquence tout à fait anodine que l'attaquant des Maroons de Waterloo a été gravement blessé lors d'un match préparatoire de la Ligue de hockey senior 3A du Québec le 15 septembre dernier. Il s'apprêtait à tirer au but lorsque le défenseur a soulevé son bâton. Dans le même élan, la lame du bâton du joueur adverse est allée frapper l'œil droit du joueur de centre sous la visière. En raison de la gravité de sa blessure, les médecins ne sont pas encore capables de se prononcer à savoir si le jeune homme de 24 ans retrouvera la vision. Si jamais il rechausse un jour ses patins, Guillaume Pelletier le fera avec une grille complète afin de se protéger comme le recommandent plusieurs experts. Il espère que sa malchance inspirera d'autres hockeyeurs à emboîter le pas. Un magasin de 55 000 pieds carrés collés sur leur piscine creusée. Des Lavallois s'attendaient à trouver un jour des commerces derrière leur maison, mais jamais le magasin à grande surface qui est en train d'y être érigé. Il est construit à 25 pieds de nos clôtures arrière, c'est inacceptable, explique Samantha Toubia, une résidente de la rue Jean-Paul Sartre. Quand on va sortir dans notre jardin ou se baigner dans la piscine, on va avoir cette vue horrible et les bruits des camions, ajoute-t-elle. L'ouverture du grossiste alimentaire Obu est prévue pour décembre. Le magasin, de 55 000 pieds carrés, attira chaque jour de 1 000 à 3 000 clients. Pour les résidents, le gros problème va être la centaine de camions qui passeront au quotidien à l'arrière de leur maison, avec toute la pollution, l'odeur, les vibrations et le bruit. La ville de Laval se défend en indiquant que le permis de construire et le permis d'exploitation du grossiste ont été réalisés dans les règles. Il n'y a eu aucun changement de zonage. Quant au propriétaire du magasin, il se dit être désolé pour les habitants et ne voit aucune solution dans les médias. Et pour terminer cette revue de presse du Journal de Montréal, des jeunes de deux bibliothèques de Verdun qui ont de la difficulté à lire peuvent maintenant relever le défi en compagnie d'un chien qui prête une oreille attentive à leur histoire et permettent de dédramatiser la lecture. Même les enfants déjà passionnés de lecture, comme Galilée Lemieux qu'on voit sur la photo dans le Journal de Montréal, accompagné d'un petit chien qui semble être un caniche. Alors, j'aime vraiment lire pour les autres, explique la jeune fille de 10 ans. Avec Beau le chien, Beau B-A-U, c'est comme si je lisais à mon petit frère. L'initiative mise en place depuis la mi-septembre est offerte jusqu'au 13 décembre est le résultat d'une collaboration entre les bibliothèques et l'organisme PAT Humanitaire qui offre des programmes et services de thérapie assistée par animal.
Toi, moi, nous, le plus doux des écrins. Baiser tout le mois d'où les embruns. Toi, moi, nous, se cacher dans les coins. Tout va, tout vient. Mais toi, moi, nous, c'est bien. Toi, moi, nous, faire un bout de chemin. Rendez-vous, prochaine vie, dernier train. Toi, moi, nous, oublier tout chagrin. Fais-moi sourire, le rire nous va bien. Toi, moi, nous, c'est mieux que dans les rêves. Plus ça bout, moins je désire de trêve. Toi, moi, nous, chaque jour j'ai la fête. On ne sait rien, mais toi, moi, nous, c'est bien. J'aime le vin, l'ivresse nous va bien. Toi, moi, nous, l'alcool et la violence. À genoux, debout, même en silence. Des mots fous, des frissons de latence, des coups de sang. Thank you.
La pièce est signée Benjamin Biolay. C'était Isabelle Boulay qui chantait « Toi, moi, nous ».
Comment préparer son aîné à l'arrivée de bébé? C'est une collaboration spéciale de Mélissa Proulx dans la section pause de la presse d'aujourd'hui. Julie Rivard et son amoureux n'ont ménagé aucun effort pour préparer leur fils de 3 ans, Mathéo, à une petite révolution, l'arrivée d'un bébé dans la famille. Récit d'une maman suivi de conseils d'une psychologue. Lorsqu'ils ont appris qu'ils attendaient un petit deuxième, Julie Rivard et Philippe Jacques étaient tiraillés entre la joie d'accueillir un nouvel enfant et la tristesse de briser leur cellule à 3, tissée serrée. On disait à notre garçon « Ne t'en fais pas, papa et maman vont t'aimer quand même », se souvient l'acupunctrice. Au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'on provoquait probablement des inquiétudes chez lui en laissant transparaître nos émotions. Le couple a alors changé de discours. On a adopté une attitude plus positive avec Mathéo en lui disant qu'il serait le héros de son petit frère, que celui-ci s'intéresserait à tout ce qu'il ferait, qu'il serait ami pour la vie, dit Julie Rivard. À quelques reprises au cours de la grossesse, Mathéo a accompagné sa maman à la maison de naissance où la sage-femme lui a notamment montré comment écouter le cœur de son petit frère. Les parents ont également suivi un atelier pour les couples qui attendent un deuxième enfant. « Nous nous sentions de plus en plus confiants », raconte la mère de 38 ans. Puis, la méfiance de Mathéo a lentement fait place à de la curiosité. En l'impliquant dans toutes les étapes de la préparation et en le valorisant dans son rôle de grand frère, il s'est senti de plus en plus concerné. Le petit Luca a maintenant 1 mois. L'excitation des premiers jours a fait place à la nouvelle routine. « Mathéo est très gentil avec son petit frère », témoigne Julie Rivard. Par contre, on constate que les défis que nous avions avec lui avant la naissance se sont accentués. Il est très réactif au « non » et fait plus de crises. Il cherche aussi davantage l'attention de sa mère. Lorsque nous sommes rentrés à la maison avec Luca, j'ai pris soin de ne pas l'avoir dans les bras afin de me montrer disponible pour mon grand, raconte la mère qui essaie de suivre ce même conseil lorsque son fils aîné rentre de la garderie. Il a besoin d'attention souvent. Mais pas longtemps, et je constate que ça peut faire toute la différence d'être présente pour lui dans ces moments importants. La famille s'agrandit. À ce grand bonheur se mêle l'inquiétude. Comment l'aîné réagira-t-il à la nouvelle? À l'annonce de la grossesse, on utilise un discours simple et on inclut son enfant dans les petits bonheurs que sont l'annonce du sexe, du prénom, sentir le bébé bouger, énonce Marie-Claude Hébert, psychologue et psychothérapeute auprès des enfants. Il aura besoin de temps pour s'adapter à ce grand changement dans sa vie. Avec un enfant plus anxieux, la psychologue suggère de mettre des mots sur ses craintes tout en disant qu'elles sont normales. En le réconfortant, on ajoute le geste à la parole en prenant le temps de jouer avec lui au même moment, dit Marie-Claude Hébert, psychologue. Bébé arrive. À l'approche de la naissance du bébé, une préparation est de mise. Marie-Claude Hébert suggère de jouer à la première rencontre avec le petit frère ou la petite sœur. Parfois, l'enfant en bas âge s'attend à trouver un nouveau partenaire de jeu qui lui sourira et le regardera. On ajuste ainsi ses attentes en expliquant que le nouveau-né dormira beaucoup, bougera peu. On peut indiquer avec une poupée la façon de le toucher et de le prendre sécuritairement. Ce même jeu peut servir à imaginer la routine du nouveau-né qui demandera beaucoup de soins. Au cours des premières semaines, il est possible que l'enfant cherche à attirer l'attention ou à exprimer son désir de rester petit pour qu'on s'occupe de lui. L'arrivée du bébé crée parfois un sentiment de perte, une impression d'être moins aimé, reconnu ou important aux yeux des parents, explique la psychologue. Des comportements de régression peuvent survenir et toucher le langage, l'autonomie, la propreté ou le sommeil de l'enfant. À l'intérieur de quelques mois, tout rentre habituellement dans l'ordre, assure Mme Hébert. Si les régressions subsistent au-delà de 6 mois, il peut être souhaitable que les parents envisagent une aide extérieure afin que leur aîné adopte de nouveau des comportements favorables à son développement. L'enfant passe près de blesser bébé avec un jouet. Il est préférable d'agir de façon constructive pour éviter de provoquer des micro-fractures dans le lien durant cette période fragile, répond la psychologue. le parent peut changer de jeu ou retirer l'objet problématique plutôt que d'imposer un retrait ou de cesser de jouer avec lui. L'implication d'un enfant de 3 à 6 ans dans la routine du nourrisson peut contribuer à le valoriser dans son nouveau rôle et favoriser le développement du lien fraternel. Avec les plus jeunes, 18 mois à 3 ans, la psychologue suggère aux parents de trouver des moments prévisibles pour jouer seul à seul, ce qui aura pour effet de les apaiser et de les faire mieux accepter les périodes où ils sont moins disponibles. Alors voilà pour ce papier, cet article intitulé « Comment préparer son aîné à l'arrivée de bébé » signé Mélissa Proux dans la presse. Dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui, Renault au-delà de ses espérances. Grâce à la générosité de policiers, la dame fraudée pourra se consacrer à son rêve de devenir famille d'accueil. Une sexagénaire de Longueuil, victime de fraude, n'en a pas cru ses yeux hier lorsqu'elle a visité sa maison fraîchement rénovée durant le week-end. C'est un texte de Antoine Lacroix. « C'est au-delà de toutes mes espérances. Je n'arrive pas encore à réaliser tout ce qui est en train de se passer autour de moi. » C'est irréel, tout cet amour que je reçois, lance Colette Martel, très touchée et avec des trémolos dans la voix. Madame Martel avait été victime d'une fraude de 90 000 $. Samedi, la dame de 69 ans apprenait par surprise que des policiers et des ouvriers bénévoles prenaient d'assaut sa maison pour la fin de semaine afin d'effectuer des rénovations qui n'avaient pas été faites par le présumé fraudeur, dis-je bien. Ce dernier, Mathieu Tardif, s'est improvisé entrepreneur et lui a vraisemblablement soutiré de l'argent de plusieurs façons. Ça met un baume sur tout ce que j'ai vécu et ça me permet de tourner la page, soutient Colette Martel, qui a visité sa maison les larmes aux yeux hier. Près d'une cinquantaine de policiers de Longueuil et des ouvriers bénévoles ont eu besoin de plus de 25 heures de travail en seulement 2 jours pour effectuer les nombreuses rénovations nécessaires pour la maison, où notamment le sous-sol a été complètement refait et un immense balcon a été construit à l'extérieur. On était comme dans une fourmilière, mais on a réussi à tout coordonner pour que ça avance vite. Ça fait une fin de semaine éreintante, mais c'est pour une bonne cause, raconte Véronique Saint-Pierre, copropriétaire de l'entreprise Paul Davis, qui coordonne les travaux gratuitement avec d'autres entrepreneurs. Un escalier sera terminé et du travail de peinture sera achevé au cours de la semaine. La toiture de Mme Martel serait aussi refaite. Elle le mérite tellement, affirme Cécile Lefebvre, la sergente détective du service de police de Longueuil et complice de Mme Saint-Pierre pour la surprise. Maintenant, j'invite tous les corps de police de la province et du monde à aller aider quelqu'un dans leur communauté. Une fois que tout sera terminé, Colette Martel pourra se consacrer à finaliser son rêve, soit devenir famille d'accueil pour des personnes atteintes de déficience intellectuelle. J'ai bon espoir que la maison sera conforme aux normes et que ma demande sera acceptée, indique la sexagénaire. On se croise les doigts pour que mon projet puisse commencer le plus vite possible, dit-elle. Alors, bonne chance et bravo pour cette initiative. Renault au-delà de ses espérances dans le journal du 2 octobre 2017. Vous écoutez les voix de service quotidiens en ce début de semaine. Hélène Denis qui vous accompagne à venir les actualités internationales, culturelles et la tournée des journaux régionaux. Restez avec nous.
treasure still I want, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence, and nothing ever could. For all I was born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are. Tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are.
C'était Sting avec la pièce Fragile. Sting qui a 66 ans aujourd'hui. Bonne fête, Sting!
France, une attaque au couteau fait deux morts. Deux jeunes femmes ont été tuées dimanche à l'arme blanche à la gare principale de Marseille, dans le sud de la France, par un homme qui a ensuite été abattu par des militaires, une attaque revendiquée par le groupe État islamique EI. Celle-ci a eu lieu vers 13h45 sur le parvis de la gare Saint-Charles. Selon une source proche de l'enquête, l'assaillant, âgé d'une trentaine d'années et qui ne portait pas de papier d'identité sur lui, aurait crié « Allah Akbar » en poignardant une femme et en égorgeant une autre. Il était connu pour des faits de droit communs sous plusieurs identités selon des sources proches de l'enquête. L'assaillant a été abattu par les militaires de l'opération Sentinelle, mise en place après les attentats de janvier 2015. Il est décédé. La gare se situe tout près du centre-ville, non loin de la fameuse Canebière, artère mythique de la ville menant au Vieux-Port. Le président français Emmanuel Macron s'est dit sur Twitter « profondément indigné par cet acte barbare. Nous ne baissons pas la garde », a de son côté assuré sur Twitter le premier ministre Édouard Philippe, faisant part de sa colère et tristesse pour les victimes. Thank you. Les États-Unis ont soufflé ce week-end le chaud et le froid à propos de la Corée du Nord, le chef de la diplomatie Rex Tillerson évoquant samedi l'ouverture de canaux de communication avec Pyongyang que le président Donald Trump a aussitôt qualifié dimanche de perte de temps. J'ai dit à Rex Tillerson, notre merveilleux secrétaire d'État, qu'il perd son temps à négocier avec le petit Rocketman, l'homme fusée, a tweeté Donald Trump dimanche matin, reprenant l'une de ses références moqueuses au sujet du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. « Conserve ton énergie, Rex, nous ferons ce que nous devons faire », a-t-il ajouté. Lors d'un déplacement en Chine, Rex Tillerson avait affirmé que Washington tentait de sonder la volonté du régime de Kim Jong-un d'engager des discussions sur son programme nucléaire, alors que les deux pays n'ont pas de relations diplomatiques. « Nous avons deux ou trois canaux ouverts avec Pyongyang, nous pouvons leur parler, nous leur parlons », avait-il assuré. Le président Donald Trump était accusé dimanche par des résidents de Porto Rico et des élus américains de minimiser la crise provoquée par le passage de l'ouragan Maria en refusant de reconnaître des lacunes dans l'acheminement de l'aide. Trump vit dans une bulle, qu'il vienne et qu'il voit par lui-même ce qui se passe ici, s'exclamait Aida Rosario, 57 ans, à la sortie de la messe de la cathédrale de San Juan dimanche. Donald Trump est attendu mardi à Porto Rico pour une visite avec son épouse Melania. 10 jours après le passage de l'ouragan Maria, les habitants de Porto Rico tentent de s'adapter à un quotidien sans électricité ni Internet marqué par les pénuries et l'insécurité qu'a provoqué une catastrophe décrite comme sans précédent dans ce territoire américain. Des représentants des autorités libyennes se disputant le pouvoir ont progressé pour amender un accord sur la transition politique dans ce pays soumis au chaos depuis la chute du dictateur Muammar Kadhafi en 2011, selon l'émissaire de l'ONU pour la Libye. Des représentants des rivaux libyens étaient réunis depuis mardi en Tunisie sous l'égide du nouveau représentant de l'ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, afin de s'accorder sur les amendements à apporter à l'accord de Skhirat, signé fin 2015 au Maroc pour mettre fin à la crise politique en Libye. Les deux camps rivaux vont reprendre les négociations dans une semaine. Rejetant les accusations d'Ankara, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a démenti dimanche toute implication des services de renseignement de son pays dans le référendum du Kurdistan irakien. Il a aussi tenu à réitérer sa sympathie pour le peuple kurde. Le président turc avait suggéré samedi que le Mossad israélien avait joué un rôle dans le référendum qui s'est tenu le 25 septembre dans la région autonome du Kurdistan. Au moins 3 000 personnes, dont près d'un tiers de civils, ont été tuées en septembre dans le conflit qui ravage la Syrie, soit le mois le plus meurtrier en 2017 en raison notamment des offensives contre le groupe armé État islamique selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Plus de 70 % des victimes civiles ont été tuées dans les frappes aériennes du régime ou de la Russie ou dans les raids de la coalition internationale menée par les États-Unis, a précisé à l'agence France-Presse le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Rami Abdel Rahman. Et pour terminer cette portion actualité internationale, une enquête judiciaire a été lancée hier pour blessures involontaires sur fond de polémique entre clubs au lendemain de l'effondrement d'une barrière lors d'un match de soccer dans le nord de la France qui a fait 29 blessés. Hier matin, tous les partisans blessés avaient quitté l'hôpital, à l'exception de 6 d'entre eux se trouvant dans un état stable et rester en observation selon le centre hospitalier d'Amiens. Il pourrait sortir dans la journée. Une instruction disciplinaire a de plus été annoncée par la Ligue de football professionnelle pour jeudi. Elle peut déboucher sur une amende, un huis clos partiel ou total, un match perdu ou un retrait de points pour le club receveur. Actualité culturelle maintenant. Son plongeur, publié chez Le Cartanier, a valu à Stéphane Larue une pluie d'éloges et le prix des libraires. Le revoici une nouvelle fois primé, cette fois de l'autre côté de l'Atlantique. Vendredi à Paris, Le Plongeur a en effet reçu le prix Sangor du premier roman francophone et francophile, prix qui parallèlement rend hommage au poète et ancien président sénégalais Léopold Sédar Senghor. Ce formidable roman d'apprentissage l'a emporté au cinquième tour de scrutin contre Rapatrié, publié au seuil de Néhémie-Pierre Dahomé, et Mon royaume pour une guitare de Kidi Bebé. Le lauréat succède à l'écrivain comorien Ali Zamir, qui l'avait emporté en 2016 avec Anguille sous roche. L'animateur de télévision d'origine canadienne Monty Hall est décédé à Los Angeles à l'âge de 96 ans. Hall, né à Winnipeg au Manitoba, a surtout fait carrière aux États-Unis. Il a animé de nombreux quiz télévisés, dont le célèbre « Let's make a deal » pendant 23 ans. Le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, s'est dit attristé par la disparition de Monty Hall, qui a apporté la joie à tant de personnes. Selon le maire de Winnipeg, Brian Bowman, M. Hall a été l'ambassadeur de sa ville à Hollywood. Monty Hall s'était aussi impliqué dans de nombreux organismes caritatifs au cours de sa longue carrière. La vie hors de l'ordinaire des frères Maurice Mad Dog Vachon et Paul de Butcher Vachon, deux des plus célèbres lutteurs québécois, sera racontée au grand écran dans un documentaire tourné par l'ex-athlète devenu cinéaste Thomas Rinfret. Selon Valérie Bissonnette, la productrice de ce film, le financement du film est presque bouclé et la production s'amorcera l'an prochain. Elle souhaite qu'il soit prêt à temps pour être proposé au Festival d'automne 2018 pour une exploitation en salle 2019 et la cible. La chronique de Sophie Desrochers intitulée « Mélanie Joly et la tarte de Netflix ». Vous pensez qu'il n'y a qu'au Québec qu'on chiale contre l'entente Netflix? Une chroniqueuse du Globe and Mail l'a carrément qualifiée d'abject failure, un échec abject. Pourtant, Mélanie Joly joue à l'autruche depuis jeudi. Elle ne fait que répéter comme un perroquet que « c'est une bonne nouvelle », comme si elle disait « Coco veut un biscuit, Coco veut un biscuit ». Comment peut-on considérer comme une bonne nouvelle le fait que Mélanie Joly n'ait annoncé aucune garantie de pourcentage de contenu francophone? En entrevue, elle a simplement répondu « Je sais que Netflix aura des bonnes nouvelles à annoncer à ce sujet au cours des prochaines semaines. » Mais ce n'est pas ça qu'on veut de la part d'une ministre. Laisser à une multinationale le soin de nous annoncer quand bon lui semblera ce qu'elle daigne faire pour respecter la culture francophone, ce n'est pas un détail à régler plus tard. En entrevue à Radio-Canada, elle a déclaré « J'espère que les producteurs québécois vont saisir cette occasion, car Netflix va inviter les producteurs francophones à les rencontrer. » Hallucinant! Une ministre qui se décharge de ses responsabilités sur le dos des producteurs, en laissant entendre que ce sera à eux de jouer au plus fort la poche pour se tailler une partie de la tarte Netflix, Michel Lacombe lui a posé une sacrée bonne question. Les séries en anglais de Netflix Canada seront-elles doublées en français à Paris ou au Québec? La réponse, on est convaincu que l'industrie du doublage, elle est bonne au Québec et que, étant donné que Netflix a une compagnie de production canadienne, ils vont avoir tout avantage à faire leur doublage ici au Canada. Elle ne leur a imposé aucune clause et se fie à leur bonne volonté. Imaginez si vous disiez à votre patron, « J'ai signé avec une multinationale multimilliardaire sans aucune garantie. Je me fie à leur bonne foi. Vous perdriez votre emploi dans l'heure qui suit. » Pour tenter de clarifier sa pensée, entre parenthèses, Mme Joly a publié une lettre ouverte dans laquelle elle ne répond toujours pas clairement aux questions qu'on se pose. Il s'agit d'une réponse ambitieuse pour adapter nos approches à un environnement devenu complexe, mouvant et comportant de multiples enjeux, un écosystème qui regroupe aussi des joueurs majeurs venus de partout dans le monde. Mme Joly était tout excitée de nous dire que Netflix allait créer un algorithme pour retrouver le contenu canadien sur son site avec l'apposition d'une vignette de « contenu canadien ». Au supermarché, des images entre un spécial sans gluten et un autre, calories vides, on retrouvera une étiquette 100% canadien comme sur la viande hachée. Et elle a le culot de nous dire que ça aide la découvrabilité du contenu. De caisser un environnement mouvant, un écosystème complexe, la découvrabilité. Après les chrétienneries et les péronismes, voilà qu'on a droit au jolisme, parler pour ne rien dire. Le tableau d'inspiration de Pierre Lapointe, on le sait, la tête de Pierre Lapointe est remplie de toutes sortes de références sur la science du cœur. Son nouveau disque, qui sort vendredi, elle fuse de partout. Voici 6 de ses inspirations commentées par lui-même. Alors, il y a Pascal Blanchette. En 2010, j'avais participé à un projet qui réunissait des chanteurs à des bédéistes. J'avais été jumelée avec Pascal Blanchette, qui avait illustré 2 par 2 rassemblés et on ne s'est jamais lâché depuis. Je lui avais confié la pochette de Paris Tristesse, mais ici, on est passé à un autre niveau. Il a construit un décor en 3D pour la pochette de La Science du cœur et a fait tout le graphisme de l'album. Il s'est aussi occupé du visuel, du clip de la chanson « Sais-tu vraiment qui tu es ?» Il y a aussi Steve Reich, Naoshima, qui est une île perdue du Japon, Amanda Lear, une reine du disco, Walter van Beyrendonck, c'est le directeur de l'école d'Anvers, une des écoles les plus importantes des créateurs de mode, et Daniel Bélanger. Nous avons fait la chanson « Une lettre ensemble ». Je lui ai envoyé le texte, il m'a soumis cette musique. C'est une façon de le remercier et de satisfaire le fan fini en moi. Il y a donc un peu de son intelligence et de son talent sur mon disque. Allons-y avec la tournée des journaux régionaux. Dans Le Droit aujourd'hui, manifestation sur la colline, insultes et dialogues de sourds, c'est un texte de Jacques Normand Sauvé. Une 20aine de manifestants de droite qui planifiaient organiser un événement public en plein air devant le Parlement d'Ottawa se sont heurtés à plus d'une 100aine de contre-manifestants pro-immigration qui les attendaient de pied ferme samedi matin. Des membres de la CCCC, la Coalition canadienne des citoyens et citoyennes concernés, SIC, entre parenthèses, protégés par des militants d'un groupe de droite, les Northern Guards, se sont vite retrouvés entourés de partisans d'une coalition pro-immigration issue de syndicats d'associations étudiantes et de groupes politiques de toutes allégeances. À la suite de quelques altercations et après qu'un des membres de l'extrême droite soit tombé par terre, volontairement ou non, la police a choisi de séparer les deux groupes de manifestants et de les placer de part et d'autre de la colline du Parlement. D'un côté, un dénommé George Halak de la CCCC, qui se dit chrétien, dénonçait ce qu'il appelait la faillite du Canada quant à la protection de sa frontière, quant à la gestion des migrants illégaux et à son irrespect des procédures de sélection des immigrants. Bref, l'accueil des migrants illégaux au Canada est une atteinte à la sécurité des Canadiens, selon la CCCC. De l'autre côté de la colline du Parlement, une coalition très hétéroclite de partisans pro-immigration réunissait des syndiqués, des étudiants, des communistes, des anarchistes, des néo-canadiens et des citoyens ordinaires venus appuyer toute politique qui favoriserait une intégration rapide des immigrants en détresse. Moi, je suis extrêmement inquiète du fait que dans notre société, dans un état de droit supposément, on a des discours qui sont haineux de personnes qui préconisent l'exclusion d'une catégorie d'êtres humains qui ont les mêmes droits que tout le monde, parce que les droits humains sont universels, raconte cette femme qui préfère conserver l'anonymat. Cette mosaïque idéologique a donné lieu à quelques échauffourées physiques, des insultes et des huées. La police a réussi à contenir tout ce monde en appréhendant personne pendant que des touristes intrigués faisaient le plein de clichés sur leurs téléphones intelligents. Les manifestants et contre-manifestants se sont finalement séparés en début d'après-midi. Pour les orphelins camerounais, c'est dans le quotidien sous la plume de Myriam Gauthier, un travailleur humanitaire de la région a décidé de tout laisser derrière lui pour s'installer définitivement au Cameroun et participer à la construction d'un orphelinat. Le chicoutimien Pascal Thibault y réfléchissait depuis plusieurs années, mais c'est le décès d'une petite Camerounaise qu'il avait adoptée qui l'a convaincu de consacrer le restant de ses jours à cette cause qui lui tient tant à cœur. Pascal Thibault agit comme travailleur humanitaire depuis 2006 au Cameroun, auprès de l'orphelinat de la communauté Notre-Dame du Mont-Carmel, de Knofoulou à Yaoundé, géré par des missionnaires mariavites. Il y passe depuis chaque année quelques mois à raison d'un ou plusieurs séjours. Parmi les centaines d'orphelins qu'il a côtoyés, il avait eu un coup de cœur pour une petite Marie-Douce, entrée à l'âge d'un an et demi à l'orphelinat qui accueille quelque 350 enfants. En septembre 2015, l'adoption était complétée et elle portait dorénavant son nom de famille. Il n'attendait plus que sa venue au Canada qu'il espérait dans l'année suivante. Pascal devait cependant attendre que la santé de la petite se rétablisse. L'histoire s'est ensuite compliquée. Les formalités administratives qui semblaient auparavant simples se sont complexifiées au Cameroun et l'état de santé de Marie-Douce vacillait au rythme de ses crises de paludisme. Après des années d'attente, Pascal a reçu une terrible nouvelle le 23 juillet. Marie-Douce est morte du paludisme. Hospitalisée depuis le 9 juillet, la maladie avait atteint ses intestins. La petite avait 5 ans. Celui qui est aussi le fondateur et président de l'organisme Groupe d'entraide Les Yeux du Cœur Canada, qui soutient financièrement l'orphelinat camerounais, a dû réunir d'urgence son conseil d'administration pour envoyer des fonds pour l'achat d'un cercueil et d'une pierre tombale. On envoie des fonds pour la nourriture, les soins de santé, les fournitures scolaires, mais quand on se fait appeler pour se faire demander un cercueil pour un enfant, c'est dur, a-t-il exprimé lors d'un entretien téléphonique avec Le Quotidien. Le 15 août, une autre enfant est morte, aussi victime du paludisme. Un autre cercueil a dû être acheté. Ça a été un été dur pour nous. La malaria est l'une des principales causes de décès des enfants. La mort de Marie-Douce l'a incité à prendre cette décision à laquelle il pensait depuis un moment. S'établir définitivement au Cameroun. Et c'est ce qu'il fera le 2 novembre alors qu'il prendra l'avion avec un billet pour un aller simple en poche. Le nouvelliste Gabriel Delisle, nouveau record de citrouille géante au Potiroton de Gentilly. Le Potiroton de Gentilly a un nouveau roi de la citrouille géante. David Tessier a battu le record de Claude Colbert en présentant une énorme citrouille de 1689 livres à la pesée officielle du 27e Potiron. Le gigantesque fruit orangé du résident de Notre-Dame du Mont-Carmel a dépassé de 59 livres le record de 2012. Dans Le Soleil, Guillaume Piedbœuf, les taxis veulent une réduction du nombre d'heures de formation. Préoccupés par la pénurie de chauffeurs de taxi, des propriétaires et coopératives de taxis de Québec réclament un projet pilote comme celui de Montréal, réduisant le nombre d'heures de formation des chauffeurs. À l'ère d'Uber, la formation actuelle obligatoire de 110 heures rebute totalement la relève, dénonce-t-il. J'ai eu ma formation de taxi en 2007 et à l'époque, il fallait attendre sur une liste d'attente pour la faire. On n'a jamais eu de problème pour recruter des chauffeurs à Sainte-Foy, mais présentement, on a beau annoncer un peu partout, les gens désertent le centre de formation, explique Hicham Berouel, propriétaire de quelques taxis à Sainte-Foy. En vertu d'un nouveau projet de loi, un projet pilote plutôt, le nombre d'heures de formation exigées par le ministère des Transports pour les chauffeurs de taxi montréalais vient de passer de 150 à 35, le même nombre d'heures que les chauffeurs d'Uber selon la réglementation annoncée par le ministre Laurent Lessard. Et dans la tribune, Simon Roberge, malgré l'orgue encore entreposé et l'absence de clocher, Mgr Paul Larocque a célébré une première messe à la chapelle Pauline. C'était le 30 septembre 1917. 100 ans plus tard, la chapelle et la cathédrale se dressent fièrement au cœur de Sherbrooke et sont devenus un monument emblématique de la ville. L'architecte Louis-Napoléon Audette et Mgr Larocque ont uni leurs efforts au début du siècle dernier pour construire une chapelle qu'il voulait solide pour la communauté catholique locale. C'est tout pour les voies de service quotidiens. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une belle journée. Merci à Jean-Sébastien Laliberté, à la musique et aussi à la mise en onde. Je vous retrouve, si vous nous écoutez en direct, tout de suite dans quelques minutes pour l'émission Les Paractualités. Sinon, à la prochaine!